Bonsoir. Il n'imaginait pas Dupond-Moretti ministre, mais avec l'avocat pénaliste à la chancellerie, il ne pourra pas travailler sereinement. Le procureur de la République de Basse-Terre, en Guadeloupe, fait jouer sa clause de conscience. Il demande à être déchargé de ses fonctions. La solution, c'est de réaffirmer l'autorité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite à Bayonne, salue la famille de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus, mort hier des suites de son agression. « Nous ne laisserons pas se banaliser une violence gratuite », dit-il. Il reviendra en septembre pour annoncer des mesures concrètes. Dans ce journal également, l'échec de Louis Alliot qui visait la présidence de Perpignan Métropole. 7 préfectures du Centre-Val de Loire qui prennent les devants pour empêcher l'organisation d'une rêve partie géante. Le Mali dans la tourmente après une nouvelle journée de violence. Le feu qui gagne en Sibérie où l'équivalent d'une demi-Suisse est déjà parti en fumée. Enfin du soleil pour tout le monde. Demain, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Quand un procureur de la République mécontent du ministre veut être déchargé de ses fonctions, la situation n'est pas banale. Jean-Luc Lénon, procureur de Basse-Terre en Guadeloupe, considérant que la nomination d'Éric Dupond-Moretti à la chancellerie va l'empêcher de travailler sereinement, fait valoir sa clause de conscience, décision tout à fait personnelle et qui n'engage que lui, comme il l'a expliqué à Guadeloupe la Première.
J'ai demandé en effet à être déchargé de mes fonctions de procureur de la République pour des raisons qui m'appartiennent. Ce n'est pas une démission de la magistrature. Par voie de conséquence, le décret de nomination, quand je suis arrivé à Basse-Terre, c'était un poste de substitut général près le parquet général. Je reviendrai donc prendre ma place au sein du parquet général pour quelque temps. Le procureur République est là pour mettre en œuvre dans l'arrondissement judiciaire dans lequel il sert la politique pénale d'un gouvernement. C'est aujourd'hui quelque chose qui sera difficile. Pour moi, j'estime que les conditions aujourd'hui ne sont plus remplies pour le faire. J'ai milité de longue date pour l'indépendance du parquet. J'ai pas le sentiment qu'on aille dans cette voie-là. Peut-être que je me trompe. Le changement de gouvernement et la désignation d'un nouveau garde des Sceaux, je n'ai pas à commenter cela. Mais le titulaire de la charge aujourd'hui, effectivement, n'est pas du tout sans incidence sur ma décision, évidemment.
Jean-Luc Lénon, procureur de Basse-Terre, dont la demande de décharge doit faire l'objet d'un décret qui peut prendre quelques semaines. Du côté du ministère, on renvoie au discours de passation d'Éric Dupond-Moretti, lequel avait précisé n'être en guerre avec personne et assuré vouloir avancer sur l'indépendance de la justice. Le ministre qui a participé ce matin, comme tous ses collègues, au séminaire gouvernemental voulu par Jean Castex, le Premier ministre, lequel leur a demandé à tous d'aller le plus possible sur le terrain, à la rencontre des entreprises, des syndicats, des associations et des élus. La suite du programme pour le Premier ministre, ce sera demain la Guyane et mercredi la déclaration de politique générale à l'Assemblée au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, mardi 14 juillet sur TF1, France 2 et France Inter. Des mesures pour les chauffeurs de bus de toute la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite à Bayonne cet après-midi, l'a promis à la famille de Philippe Monguillot, le chauffeur mort hier des suites de son agression dimanche dernier. Le gouvernement apportera à la ville un soutien supplémentaire, une force en plus. Ce n'est pas un simple fait divers, a souligné Gérald Darmanin, en évoquant un problème intrinsèque de la société française, contre lequel, dit-il, il va falloir réagir.
J'ai chargé M. le préfet du département de réunir extrêmement rapidement les élus locaux qui l'ont demandé, les parlementaires qui vont pouvoir contribuer, si le juge utile, à des modifications et des simplifications de la loi, mais également les sociétés de transport, de régler, autant que faire se peut, un certain nombre de dysfonctionnements ou de complexités. Ce fait aurait pu arriver à n'importe quel conducteur de bus. Et il y a plein de conducteurs de bus qui se lèvent le matin, la boule au ventre, et qui ne savent pas, au moment où je vous parle, s'ils vont revoir leur femme, leur mari ou leurs enfants. Et donc le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est d'être là pour pouvoir protéger les honnêtes gens et combattre ceux qui commettent des méfaits pour la République.
Gérard Darmanin au micro de Muriel Vittel, le ministre qui s'est engagé à revenir nous voir au mois de septembre pour prendre des mesures concrètes, à commenter le délégué CFDT du réseau des transports, transports qui reprendront lundi sur l'agglomération de Bayonne. À Aiguillon, en Lot-et-Garonne, ils sont venus par milliers pour une marche blanche en l'honneur de Mélanie Lemay. La gendarme de 25 ans, tuée par un chauffard samedi dernier, a reçu cette semaine à titre posthume l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Elle a été élevée mobilisés au titre de major. En tête du cortège cet après-midi, une banderole au nom de la jeune femme, banderole portée par des membres du club de hand dont elle faisait partie. Après les personnels non médicaux, les médecins au Ségur de la santé, après l'accord sur les augmentations accordées aux salariés des hôpitaux et des EHPAD, les syndicats de médecins devraient signer lundi le texte mis sur la table par le gouvernement. Texte qui prévoit notamment un doublement de la prime versée aux praticiens n'exerçant qu'à l'hôpital public, prime qui devrait passer à 1000 euros, soit 450 millions au total pour l'État. Deux organisations de médecins avaient déjà donné leur feu vert. Une troisième salue ce samedi un bon accord. Tout le détail de ces accords de la rue de Ségur à consulter sur franceinter.fr. À Perpignan, c'est raté pour Louis Alliot, le tout nouveau maire de la ville qui avait réussi son coup au municipal. Il a échoué à prendre ce samedi la tête de l'agglomération. Le Front républicain a parfaitement fonctionné, permettant au maire LR de Saint-Estève de l'emporter. Un représentant de l'ancien système pour Louis Alliot qui dénonce une mise à l'écart des électeurs et doit donc se satisfaire d'un poste de vice-président.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est finalement la vice-présidence, parce que moi j'avais imaginé de me présenter à 15 scrutins différents pour bien montrer que les élus, en tout cas certains, avaient décidé de m'exclure. Parce qu'on a quand même les bruits de couloir des uns des autres, et on sait très bien que dans les réunions internes qu'il y avait, une volonté manifeste de nous écarter. Certains maires ont fait, j'allais dire, l'inverse, hein. Et je trouve que c'est courageux. Ça prouve quand même que dans cette communauté d'agglomération, il y a des maires qui sont quand même responsables et qui voient très bien l'évolution de l'implantation sur le terrain et qui savent très bien que sans nous, eh bien, ils ne pourront rien faire. Donc c'est plutôt un signe encourageant pour l'avenir.
Louis Alliot au micro de Nina Valette. Faut pas rêver avec un A. Pas question d'autoriser des milliers de fêtards à se regrouper pour danser tout le week-end et au-delà. Sept préfectures du Centre-Val de Loire, alertées par des rumeurs de rêves parties géantes, ont pris ensemble des arrêtés pour l'interdire. Crise sanitaire oblige. Un tel rassemblement entraînerait pour elle probablement la création d'un cluster de contamination. Julien Payer, le directeur de cabinet du préfet de la Vienne, au téléphone de Cécilia Arbona.
Nous avons été alertés par des services compétents, de gendarmerie ou de renseignement qui suivent un peu ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a un certain nombre de points qui ont été identifiés comme de potentiels points de chute pour une grosse rave party, une sorte de technival improvisé, donc avec un risque de rassemblement d'une quantité de personnes supérieure à plusieurs milliers. Un certain nombre de préfectures se sont coordonnées. On a choisi d'interdire les rassemblements et en parallèle d'interdire aussi la circulation des camions de 3 tonnes qui pourraient transporter du matériel musical. Le but aussi des organisateurs souvent, c'est d'arriver à nous semer, en tout cas nous donner des informations contradictoires. Donc c'est pour cette raison-là qu'en fait, si vous voulez, il y a une sorte d'arc de préfectures qui ont pris des arrêtés pour couvrir un périmètre assez large. Ça devient un vrai enjeu sanitaire, parce que bon, on peut considérer que même dans un grand espace, la configuration et le type de fait que ça entraîne ou ça suppose n'est pas propice au respect des mesures barrières telles qu'on voudrait les voir appliquer encore quelques semaines, voire quelques mois.
Et à noter à propos du Covid que des médecins appellent dans le Parisien dimanche, ils appellent à rendre le masque obligatoire dans les lieux publics clos.
France Inter, Yves Decamp.
À l'étranger, une situation très tendue au Mali au lendemain d'une journée de troubles. Nouvelle manifestation violente qui visait le président Keïta et qui a fait au moins 4 morts et 20 blessés. Troisième rassemblement organisé en 2 mois par une coalition formée d'élus et de chefs religieux hostiles au pouvoir. Une instabilité d'autant plus inquiétante que le Mali est au centre de la lutte antiterroriste soutenue par les troupes françaises. Alors comment comprendre ce qui se passe à Bamako? C'est ce qu'Omar Waman a demandé à Michel Galli, spécialiste de la région.
Je dirais qu'il y a une violence croissante qui vise soit faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir, soit un dialogue politique ou au fond une prise de pouvoir du mouvement du 5 juin, la dissolution du Parlement, un gouvernement de transition proposé par l'imam Diko, la dissolution aussi ou le remplacement des 9 membres de la Cour constitutionnelle qu'ils accusent de collusion avec le pouvoir.
Et cet imam Diko, que l'on dit très influent, en tout cas il est populaire au sein de la jeunesse, est-il en position de force?
Alors pour le moment, il n'y a eu aucun soulèvement à coloration religieuse, hein, puisque je rappelle, c'est un imam wahhabite, quoique modéré. Et effectivement, il a l'appui de la jeunesse. Il se présente notamment comme un symbole de pureté, d'intégrité religieuse contre la corruption du pouvoir, ce qui est dans l'histoire aussi une solution alternative au régime corrompu.
Michel Galli, auteur du livre La guerre au Mali, aux éditions La Découverte. Et pendant ce temps, en Sibérie, les incendies font rage. La Sibérie qui connaît depuis janvier des températures anormalement élevées. Résultat, plus de 2 millions d'hectares partis en fumée, la moitié de la Suisse. Plus de 150 foyers seraient toujours en cours, dont certains trop éloignés pour être combattus. Léo Vidal-Giraud nous appelle de Moscou.
333 000 hectares de forêt qui brûlent cette semaine. Le chiffre est terrifiant. Il est pourtant inférieur à la semaine dernière. Mais ce que l'on appelle en Russie la saison des feux ne fait que commencer. La Sibérie, ce n'est pas uniquement les grands froids et la neige, c'est aussi un climat extrêmement chaud et sec en été, très propice aux incendies. D'une certaine manière, ces incendies font d'ailleurs partie d'une forme de cycle naturel en Sibérie. Ils ne sont pas tous d'origine humaine. Mais ces dernières années, avec le réchauffement climatique, leurs conséquences sont de plus en plus graves. La saison des feux est plus longue, le niveau des rivières baisse, les précipitations se font plus rares et la végétation, plus sèche, prend feu plus facilement. Les conséquences écologiques et économiques sont dramatiques. Dans ces régions, l'exploitation forestière est bien souvent la principale source de revenus. Mais même dans ce cas, les autorités n'ont pas toujours la possibilité d'éteindre les feux. En Sibérie, les distances sont immenses, elles se comptent en milliers de kilomètres, avec peu ou pas de route, ce qui fait que les foyers d'incendie sont souvent complètement inaccessibles. Malheureusement, la seule solution est souvent d'allumer des contre-feux, d'attendre et de laisser brûler. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
En sport, en foot, les premiers matchs avec public reprennent ce soir. Quelques affiches de Ligue 2 à Caen notamment, mais pas plus de 5000 personnes. Et dans le respect des consignes sanitaires, bien sûr. En temps normal, en sport, on aurait raconté ce soir la 14e étape du Tour de France qui devait partir de Clermont-Ferrand, mais ça, c'était avant. Et du coup, Xavier Monferrand, qui devait suivre le Tour pour France Inter, se balade sur le parcours. Il a fait ce matin un léger détour à Pérignat-sur-Allier à la rencontre du résident très particulier d'une EHPAD locale. Un certain Raphaël Géminiani.
Géminiani décidé à tout faire pour garder son maillot jaune.
Le Tour 58 est loin et pourtant le jaune est toujours là. Alors ce n'est plus celui du maillot, mais celui de la gentiane que Raphaël Géminiani, clope au bec, offre à ses invités.
Et de la gentiane de verre, messieurs. Un peu tringué, c'est permis.
À croire que cela conserve, puisque l'ancien maillot jaune du Tour, qui a aussi été le directeur sportif de Jacques Anquetil, vient de fêter ses 95 printemps. Le coronavirus, il est resté aux portes de sa résidence, mais Raphaël Géminiani commence à trouver le temps long.
Espérons qu'on ait un peu de sport, parce que les trois derniers mois, la télévision, c'est triste. Hein. Y a rien. Comment on a vécu? On a vécu à travers les champs. C'est un mal que personne ne se doutait. Et que finalement, il fait des ravages monstrueux. Mais ici, on est à la campagne. Aucune raison de se plaindre.
Celui que Louison Bobet a surnommé le grand fusil a tout vaincu, la malaria, la pleurésie, mais ce n'est pas pour lui qu'il a peur.
J'avais peur que le Tour se fasse pas. Et là, j'ai l'impression que le Tour va enfin avoir lieu. J'ai quand même un faible pour nos coureurs.
Et si ça tient, et que le Tour de France s'élance comme prévu à la fin du mois prochain, Raphaël Géminiani a prévu d'être au village départ le 12 septembre à Clermont-Ferrand.
Géminiani qui fut deuxième du Tour de France 51 et vainqueur du Grand Prix de la Montagne. Dans un instant, la météo. Sur les routes, il a fait beau et chaud ce samedi. Journée rouge dans le sens des départs. Jusqu'à 1000 km de bouchons cumulés ont été calculés à la mi-journée en Île-de-France et dans la vallée du Rhône, notamment un peu plus que l'année dernière à cette même période. Ce soir, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais après tout, qu'est-ce qui nous presse quand on part en vacances? C'est ce que s'est dit ce couple de Stéphanois qui partait ce matin en direction de Narbonne Plage. On arrivera quand on arrivera. En tout cas, pas question de prendre l'autoroute.
C'est surtout pour le péage parce que ça coûte un bras et un œil de nos jours. Alors qu'en passant par Millau, ça me coûte que 10 euros pour descendre sur Toulouse. Il y a beaucoup moins de monde sur la route et la route est plus sympa. Sur la nationale, ça coûte beaucoup moins cher les produits qu'on achète. Tout ce qui est pêche, abricots, enfin, il faut s'arrêter, les campagnes françaises, les vaches, les gens, la convivialité, ce qu'on n'a pas sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est speed.
Bah oui, on s'ennuie sur l'autoroute. Puis on fonce, on fonce, on fonce, on s'arrête juste dans les aires de repos, mais sans plus.
C'est limite si tu ne montes pas les uns sur les autres. Quand tu prends les aires de repos de Montélimar, t'as vu comment ça se passe? Pour se garer, c'est la croix à la bannière. Sur les nationales, on n'a pas ces problèmes.
On peut s'arrêter sous des arbres, dans un petit coin, c'est plus agréable.
J'ai même presque pas envie d'arriver tout de suite. Parce que si j'arrive trop vite, je vais être déçu, je n'irai pas profiter de la route. On n'est pas pressé. Comme disait Coluche, pour aller loin, il n'y a pas besoin d'aller vite.
Et oui, toujours se référer au grand philosophe. Des propos recueillis par Noémie Philippot, Le Temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
Demain, le soleil va largement l'emporter sur la plupart des régions, avec toujours un risque d'averses orageuses dès la matinée sur les Pyrénées et plutôt en seconde partie de journée pour les Alpes du Sud et pour la montagne Corse. Et on notera au lever du jour des foyers de brouillard en allant vers les côtes de la Manche. Les températures de l'après-midi vont afficher, comme aujourd'hui, 30 à 33 degrés sur les régions méridionales. Sur une large moitié nord, les valeurs en hausse atteindront 23 entre Brest, Caen et Lille, 27 degrés en moyenne dans le nord-est sur la Champagne, le bassin parisien et le centre Val-de-Loire, 30 sur le Limousin ainsi qu'en Rhône-Alpes. Lundi, toujours beaucoup de soleil en vue, mais sous un ciel se voilant l'après-midi au nord de la Loire, annonçant l'arrivée de la pluie par la Manche pour la journée du 14 juillet.